Je suis né à Crémone, d'un facteur d'instruments assez bon exécutant, mais plus fort compositeur, reprit le musicien. J'ai donc pu connaître de bonne heure les lois de la construction musicale dans sa double expression matérielle et spirituelle, et faire en enfant curieux des remarques qui plus tard se sont représentées dans l'esprit de l'homme fait. Les Français nous chassèrent, mon père et moi, de notre maison. Nous fûmes ruinés par la guerre. Dès l'âge de 10 ans, j'ai donc commencé la vie errante à laquelle ont été condamnés presque tous les hommes qui roulèrent dans leur tête des innovations d'art, de science ou de politique. Le sort ou les dispositions de leur esprit, qui ne cadrent point avec les compartiments où se tiennent les bourgeois, les entraînent providentiellement sur les points où ils doivent recevoir leurs enseignements. Sollicité par ma passion pour la musique, j'allais de théâtre en théâtre par toute l'Italie, en vivant de peu, comme on dit là. Tantôt, je faisais la basse dans un orchestre. Tantôt, je me trouvais sur le théâtre dans les chœurs ou sous le théâtre avec les machinistes. J'étudiais ainsi la musique dans tous ses effets, interrogeant l'instrument et la voix humaine, me demandant en quoi il diffère, en quoi il s'accorde, en fait écoutant les partitions et appliquant les lois que mon père m'avait apprises. Souvent, je voyageais en raccommodant des instruments. C'était une vie sans pain, dans un pays où brille toujours le soleil, où l'art est partout, mais où il n'y a l'argent nulle part pour l'artiste, depuis que Rome n'est plus que de nom seulement la reine du monde chrétien. Tantôt bien accueilli, tantôt chassé pour ma misère, je ne perdais point courage. J'écoutais les voix intérieures qui m'annonçaient la gloire. La musique me paraissait être dans l'enfance. Cette opinion, je l'ai conservée. Tout ce qui nous reste du monde musical antérieur au XVIIe siècle m'a prouvé que les anciens auteurs n'ont connu que la mélodie. Ils ignoraient l'harmonie et ses immenses ressources. La musique est tout à la fois une science et un art. Les racines qu'elle a dans la physique et les mathématiques en font une science, et elle devient un art par l'inspiration qui emploie son insu les théorèmes de la science. Elle tient à la physique par l'essence même de la substance qu'elle emploiera. Le son est de l'air modifié. L'air est composé de principes, lesquels trouvent sans doute en nous des principes analogues qui leur répondent, sympathisant et s'agrandissent par le pouvoir de la pensée. Ainsi, l'air doit contenir autant de particules d'élasticité différentes et capable d'autant de vibrations de durée diverses qu'il y a de tons dans les corps sonores, et ces particules perçues par notre oreille, mises en œuvre par le musicien, répondent à des idées suivant nos organisations. Selon moi, la nature du son est identique à celle de la lumière. Le son est la lumière sous une autre forme. L'une et l'autre procèdent par des vibrations qui aboutissent à l'homme et qu'il transforme en pensée dans ses centres nerveux. La musique, de même que la peinture, emploie des corps qui ont la faculté de dégager telle ou telle propriété de la substance mère pour en composer les tableaux. En musique, les instruments font l'office des couleurs qu'emploie le peintre. Du moment où tous sont produits par un corps sonore et toujours accompagné de sa tierce majeure et de sa quinte, qu'il affecte des grains de poussière placés sur un parchemin tendu, de manière à y tracer des figures d'une construction géométrique toujours les mêmes, suivant les différents volumes du son, régulières quand on fait un accord et sans formes exactes quand on produit des dissonances, je dis que la musique est un art tissu dans les entrailles même de la nature. La musique obéit à des lois physiques et mathématiques. Les lois physiques sont peu connues, les lois mathématiques le sont davantage. Et depuis qu'on a commencé à étudier leurs relations, on a créé l'harmonie à laquelle nous avons dû Haydn, Mozart, Beethoven et Rossini, beaux génies qui, certes, ont produit une musique plus perfectionnée que celle de leurs devanciers, gens dont le génie d'ailleurs est incontestable. Les vieux maîtres chantaient au lieu de disposer de l'art et de la science, noble alliance qui permet de fondre en un tout les belles mélodies et la puissante harmonie. Or, si la découverte des lois mathématiques a donné ces quatre grands musiciens, où n'irions-nous pas si nous trouvions les lois physiques en vertu desquelles, saisissez bien ceci, en vertu desquelles nous rassemblons, en plus ou moins grande quantité, suivant des proportions à rechercher, une certaine substance éthérée, répandue dans l'air et qui nous donne la musique aussi bien que la lumière, les phénomènes de la végétation aussi bien que ceux de la zoologie. Comprenez-vous ? Ces lois nouvelles armeraient le compositeur de pouvoirs nouveaux en lui offrant des instruments supérieurs aux instruments actuels et peut-être une harmonie grandiose comparée à celle qui régit aujourd'hui la musique. Si chaque son modifié répond à une puissance, il faut la connaître pour marier toutes ces formes d'après leurs véritables lois. Les compositeurs travaillent sur des substances qui leur sont inconnues. Pourquoi l'instrument de métal et l'instrument de bois, le basson et le cor, se ressemblent-ils si peu, tout en employant les mêmes substances, c'est-à-dire les gaz constituants de l'air ? Leur dissemblance procède d'une décomposition quelconque de ces gaz ou d'une appréhension des principes qui leur sont propres et qu'ils renvoient à modifier en vertu de facultés inconnues. Si nous connaissions ces facultés, la science et l'art y gagneraient. Ce qui étant la science étant l'art, eh bien, ces découvertes, je les ai flairées. Et je les ai faites. Oui, dit Gambara en s'animant. Jusqu'ici, l'homme a plusieurs tôt noté les effets que les causes. S'il pénétrait les causes, la musique deviendrait le plus grand de tous les arts. N'est-il pas celui qui pénètre le plus avant dans l'âme? Vous ne voyez que ce que la peinture vous montre, vous n'entendez que ce que le poète vous dit. Mais la musique va bien au-delà. Ne forme-t-elle pas votre pensée, ne réveille-t-elle pas les souvenirs engourdis ? Voici 1000 âmes dans une salle. Un motif s'élance du gosier de la pasta, dont l'exécution répond bien aux pensées qui brillaient dans l'homme de Rossini quand il écrivit son air. La phrase de Rossini, transmise dans ses âmes, y développe autant de poèmes différents. À celui-ci se montre une femme longtemps rêvée, à celui-là je ne sais quelle rive le long de laquelle il a cheminé, et dont les saules traînant l'onde claire et les espérances qui dansaient sous les berceaux feuillis lui apparaissent. Cette femme se rappelle les 1000 sentiments qui la torturèrent pendant une heure de jalousie. L'une pense aux vœux non satisfaits de son cœur et se peint avec les riches couleurs du rêve un être idéal à qui elle se livre en éprouvant les délices de la femme caressant sa chimère dans la mosaïque romaine. L'autre songe que le soir même elle réalisera quelques désirs et se plonge par avance dans le torrent des voluptés en en recevant les ondes bondissant sur sa poitrine en feu. La musique seule a la puissance de nous faire rentrer en nous-mêmes, tandis que les autres arts nous donnent des plaisirs définis. Mais je m'égare. Telles furent mes premières idées, bien vagues, car un inventeur ne fait d'abord qu'entrevoir une sorte d'aurore. Je portais donc ces glorieuses idées au fond de mon bissac. Elles me faisaient manger gaiement la croûte séchée que je trempais souvent dans l'eau des fontaines. Je travaillais, je composais des airs, et après les avoir exécutés sur un instrument quelconque, je reprenais mes courses à travers l'Italie. Enfin, à l'âge de 22 ans, je vins habiter Venise, où je goûtais pour la première fois le calme et me trouvais dans une situation supportable. J'y fis la connaissance d'un vieux noble vénitien à qui mes idées plurent, qui m'encouragea dans mes recherches et me fit employer au théâtre de la Fenice. La vie était à bon marché, le logement coûtait peu. J'occupais un appartement dans ce palais Capello, d'où sortit un soir la fameuse Bianca, et qui devint grande duchesse de Toscane. Je me figurais que ma gloire inconnue partirait de là pour se faire aussi couronner quelques jours. Je passais les soirées au théâtre et les journées au travail. J'eus un désastre. La représentation d'un opéra dans la parution duquel j'avais essayé ma musique fit fiasco. On ne comprit rien à ma musique des martyrs. Donnez du Beethoven aux Italiens, ils n'y sont plus. Personne n'avait la patience d'attendre un effet préparé par des motifs différents que donnait chaque instrument et qui devait se rallier dans un grand ensemble. J'avais fondé quelque espérance sur l'opéra des martyrs, car nous nous escomptons toujours le succès, nous autres amants de la bleue déesse, l'espérance. Quand on se croit destiné à produire de grandes choses, il est difficile de ne pas les laisser pressentir. Le boisseau a toujours des fentes par où passe la lumière. Dans cette maison se trouvait la famille de ma femme, et l'espoir d'avoir la main de Marianna, qui me souriait souvent de sa fenêtre, avait beaucoup contribué à mes efforts. Je tombais dans une noire mélancolie en mesurant la profondeur de l'abîme où j'étais tombé, car j'entrevoyais clairement une vie de misère, une lutte constante où devait périr l'amour. Marianna fit comme le génie, elle sauta pieds joints par-dessus toutes les difficultés. Oh, je ne vous dirai pas le peu de bonheur qui dora le commencement de mes infortunes. Épouvanté de ma chute, je jugeais que l'Italie, peu compréhensive et endormie dans les flonflons de la routine, n'était point disposée à recevoir les innovations que je méditais. Je songeais donc à l'Allemagne. En voyageant dans ce pays où j'allais par la Hongrie, j'écoutais les mille voix de la nature et je m'efforçais de reproduire ces sublimes harmonies à l'aide d'instruments que je composais ou modifiais dans ce but. Ces essais comportaient des frais énormes qui eurent bientôt absorbé notre épargne. Ce fut cependant notre plus beau temps. Je fus apprécié en Allemagne. Je ne connais rien de plus grand dans ma vie que cette époque. Je ne saurais rien comparer aux sensations tumultueuses qui m'assaillait près de Marianna, dont la beauté revêtit alors un éclat et une puissance céleste. Faut-il le dire, je fus heureux. Pendant ces heures de faiblesse, plus d'une fois, je fis parler à ma passion le langage des harmonies terrestres. Il m'arriva de composer quelques-unes de ces mélodies qui ressemblent à des figures géométriques et que l'on prise beaucoup dans le monde où vous vivez. Aussitôt que j'eus du succès, je rencontrai d'invincibles obstacles multipliés par mes confrères, tous pleins de mauvaise foi ou d'ineptie. J'avais entendu parler de la France comme d'un pays où les innovations étaient favorablement accueillies. Je voulus y aller. Ma femme trouva quelques ressources et nous arrivâmes à Paris. Jusqu'alors, on ne m'avait point ri au nez, mais dans cette affreuse ville, il me fallut supporter ce nouveau genre de supplice auquel la misère va bientôt ajouter ses poignantes angoisses. Réduits à nous loger dans ce quartier infect, Nous vivons depuis plusieurs mois du seul travail de Marianna, qui a mis son aiguille au service des malheureuses prostituées qui font de cette rue leur galerie. Marianna assure qu'elle a rencontré chez ces pauvres femmes des égards et de la générosité, ce que j'attribue à l'ascendant d'une vertu si pure que le vice lui-même est contraint de la respecter. « Espérez, lui dit Andrea, peut-être êtes-vous arrivé au terme de vos épreuves. En attendant que mes efforts unis aux vôtres aient mis vos travaux en lumière, permettez à un compatriote, à un artiste comme vous, de vous offrir quelques avances sur l'infaillible succès de votre partition. Oh, tout ce qui rentre dans les conditions de la vie matérielle est du ressort de ma femme, lui répondit Gambara. Elle décidera de ce que nous pouvons accepter sans rougir d'un galant homme tel que vous paraissez l'être. Pour moi, qui depuis longtemps ne me suis laissé aller à de si longues confidences, je vous demande la permission de vous quitter. Je vois une mélodie qui m'invite, elle passe et danse devant moi, nue et frissonnante comme une belle fille qui demande à son amant les vêtements qu'il tient cachés. Adieu. Il faut que j'aille habiller une maîtresse. Je vous laisse ma femme. Il s'échappa comme un homme qui se reprochait d'avoir perdu un temps précieux, et Marianna, embarrassée, voulut le suivre. Andrea n'osait la retenir. Giardini vint alors secours à tous deux. Vous avez entendu, signorina, dit-il, votre mari vous a laissé plus d'une affaire à régler avec le seigneur comte. Marianna se rassit, mais sans lever les yeux sur Andrea, qui hésitait à lui parler. La confiance du seigneur Gambara, dit Andrea d'une voix émue, ne me vaudra-t-elle pas celle de sa femme, la belle Marianna? Refusera-t-elle de me faire connaître l'histoire de sa vie ? Oh, ma vie, répondit Marianna, ma vie est celle des lierres. Si vous voulez connaître l'histoire de mon cœur, il faut me croire aussi exempt d'orgueil que dépourvu de modestie pour m'en demander le récit après ce que vous venez d'entendre. Et à qui le demanderai-je ? S'écria le comte chez qui la passion éteignait déjà tout esprit. À vous-même, répliqua Marianna. Vous m'avez déjà comprise ou vous ne me comprendrez jamais. Essayez de vous interroger. J'y consens, mais vous m'écouterez. Cette main que je vous ai prise, vous la laisserez dans la mienne aussi longtemps que mon récit sera fidèle. J'écoute, dit Marianna. La vie d'une femme commence à sa première passion, dit Andrea. Ma chère Marianna a commencé à vivre seulement du jour où elle a vu pour la première fois Paolo Gambara. Il lui fallait une passion profonde à savourer. Il lui fallait surtout quelque intéressante faiblesse à protéger, à soutenir. La belle organisation de femme dont elle est douée appelle peut-être moins encore l'amour que la maternité. Vous soupirez, Marianna. J'ai touché à l'une des plaies vives de votre cœur. C'était un beau rôle à prendre pour vous, si jeune, que celui de protectrice d'une belle intelligence égarée. Vous vous disiez, Paolo sera mon génie, moi, je serai sa raison, à nous deux, nous ferons cet être presque divin qu'on appelle un ange, cette sublime créature qui jouit et comprend sans que la sagesse étouffe l'amour. Puis, dans le premier élan de la jeunesse, vous avez entendu ces mille voix de la nature que le poète voulait reproduire. L'enthousiasme vous saisissait quand Paolo était allé devant vous ses trésors de poésie, en cherchant la formule dans le langage sublime mais borné de la musique, et vous l'admiriez pendant qu'une exaltation délirante l'emporter loin de vous, car vous aimiez à croire que toute cette énergie déviée serait enfin ramenée à l'amour. Vous ignoriez l'empire tyrannique et jaloux que la pensée exerce sur les cerveaux qui s'éprennent d'amour pour elle. Gambara s'était donnée, avant de vous connaître, à l'orgueilleuse et vindicative maîtresse à qui vous l'avez disputée en vain jusqu'à ce jour. Un seul instant, vous avez entrevu le bonheur. Retombé des hauteurs où son esprit planait sans cesse, Paolo s'étonna de trouver la réalité si douce, et vous avez pu croire que sa folie s'endormirait dans les bras de l'amour. Mais bientôt la musique reprit sa proie. Le mirage éblouissant qui vous avait tout à coup transporté au milieu des délices d'une passion partagée rendit plus morne et plus aride la voie solitaire où vous étiez engagé. Dans le récit que votre mari vient de nous faire, comme dans le contraste frappant de vos traits et des siens, j'ai entrevu les secrètes angoisses de votre vie, les douloureux mystères de cette union mal assortie, dans laquelle vous avez pris le lot des souffrances. Si votre conduite fut toujours héroïque, si votre énergie ne se démentit pas une fois dans l'exercice de vos devoirs pénibles, peut-être dans le silence de vos nuits solitaires, ce cœur dont les battements soulèvent en ce moment votre poitrine, murmura-t-il plus d'une fois? Votre plus cruel supplice fut la grandeur même de votre mari. Moins noble, moins pur, vous eussiez pu l'abandonner, mais ses vertus soutenaient les vôtres. Entre votre héroïsme et le sien, vous vous demandiez qui céderait le dernier. Vous poursuiviez la réelle grandeur de votre tâche, comme Paolo poursuivait sa chimère. Si le seul amour du devoir vous eût soutenu et guidé, peut-être le triomphe vous eût-il semblé plus facile. Il vous eût suffi de tuer votre cœur et de transporter votre vie dans le monde des abstractions. La religion eût absorbé le reste. Et vous eussiez vécu dans une idée, comme les saintes femmes qui éteignent au pied de l'autel les instincts de la nature. Mais le charme répandu sur toute la personne de votre Paul, l'élévation de son esprit, les rares et touchants témoignages de sa tendresse, vous rejetez sans cesse hors de ce monde idéal où la vertu voulait vous retenir. Ils exaltaient en vous des forces sans cesse épuisées à lutter contre le fantôme de l'amour. Vous ne doutiez point encore. Les moindres lueurs de l'espérance vous entraînaient à la poursuite de votre douce chimère. Enfin, les déceptions de tant d'années vous ont fait perdre patience. Elle eut depuis longtemps échappé à un ange. Aujourd'hui, cette apparence si longtemps poursuivie est une ombre et non un corps. Une folie qui touche au génie de si près doit être incurable en ce monde. Frappé de cette pensée, vous avez songé à toute votre jeunesse, sinon perdue, au moins sacrifiée. Vous avez alors amèrement reconnu l'erreur de la nature qui vous avait donné un père, quand vous appeliez un époux. Vous vous êtes demandé si vous n'aviez pas outrepassé les devoirs de l'épouse en vous gardant tout entière à cet homme qui se réservait à la science. Marianna, laissez-moi votre main. Tout ce que j'ai dit est vrai. Et vous avez jeté les yeux autour de vous, mais vous étiez alors à Paris et non en Italie, où l'on s'est si bien aimé. Oh, laissez-moi achever ce récit, s'écria Marianna. J'aime mieux dire moi-même ces choses. Je serai franche, sans maintenant que je parle à mon meilleur ami. Oui, j'étais à Paris quand se passait en moi tout ce que vous venez de m'expliquer si clairement. Mais quand je vous vis, j'étais sauvé, car je n'avais rencontré nulle part l'amour rêvé depuis mon enfance. Mon costume et ma demeure me soustrayaient au regard des hommes comme vous. Quelques jeunes gens à qui leur situation ne permettait pas de m'insulter me devinrent plus odieux encore par la légèreté avec laquelle ils me traitaient. Les uns bafouaient mon mari comme un vieillard ridicule, d'autres cherchaient bassement à gagner ses bonnes grâces pour le trahir. Tous parlaient de m'en séparer, aucun ne comprenait le culte que j'ai voué à cette âme, qui n'est si loin de nous que parce qu'elle est près du ciel. À cet ami, à ce frère que je veux toujours servir. Vous seul avez compris le lien qui m'attache à lui, n'est-ce pas? Dites-moi que vous vous êtes pris pour mon Paul d'un intérêt sincère et sans arrière-pensée. J'accepte ces éloges, interrompit Andrea, mais n'allez pas plus loin, ne me forcez pas de vous démentir. Je vous aime, Mariana, comme on aime dans ce beau pays où nous sommes nés l'un et l'autre. Je vous aime de toute mon âme et de toutes mes forces, mais avant de vous offrir cet amour, je veux me rendre digne du vôtre. Je tenterai un dernier effort pour vous rendre l'homme que vous aimez depuis l'enfance, l'homme que vous aimerez toujours. En attendant le succès ou la défaite, acceptez sans rougir l'aisance que je veux vous donner à tous deux. Demain, nous irons ensemble choisir un logement pour lui. M'estimez-vous assez pour m'associer aux fonctions de votre tutelle? Mariana, étonnée de cette générosité, tendit la main au comte, qui sortit en s'efforçant d'échapper aux civilités du signor Giardini et de sa femme. Le lendemain, le comte fut introduit par Giardini dans l'appartement des deux époux. Quoique l'esprit élevé de son amant lui fût déjà connu, car il est certaines âmes qui se pénètrent profondément, Mariana était trop bonne femme de ménage pour ne pas laisser percer l'embarras qu'elle éprouvait à recevoir un si grand seigneur dans une si pauvre chambre. Tout y était fort propre. Elle avait passé la matinée entière à épousseter son étrange mobilier, œuvre du signor Giardini, qu'il avait construit à ses moments de loisir avec les débris des instruments rebutés par Gambara. Andrea n'avait jamais rien vu de si extravagant. Pour se maintenir dans une gravité convenable, il cessa de regarder un lit grotesque pratiqué par le malicieux cuisinier dans la caisse d'un vieux clavecin et reporta ses yeux sur le lit de Mariana, étroite couchette dont l'unique matelas était couvert d'une mousseline blanche, aspect qui lui inspira des pensées tout à la fois tristes et douces. Il voulut parler de ses projets, de l'emploi de la matinée, mais l'enthousiaste Gambara, croyant avoir enfin rencontré un bénévole auditeur, s'empara du comte et le contraignit d'écouter l'opéra qu'il avait écrit pour Paris. Et d'abord, monsieur, dit Gambara, permettez-moi de vous apprendre en deux mots le sujet. Ici, les gens qui reçoivent les impressions musicales ne les développent pas en eux-mêmes, comme la religion nous enseigne à développer par la prière les textes saints. Il est donc bien difficile de leur faire comprendre qu'il existe dans la nature une musique éternelle, une mélodie suave, une harmonie parfaite, troublée seulement par les révolutions indépendantes de la volonté divine, comme les passions le sont de la volonté des hommes. Je devais donc trouver un cadre immense où puissent tenir les effets et les causes, car ma musique a pour but d'offrir une peinture de la vie des nations prises à son point de vue le plus élevé. Mon opéra, dont le libretto a été composé par moi, car un poète n'en eut jamais développé le sujet, embrasse la vie de Mahomet, personnage en qui les magies de l'antique sabéisme et la poésie orientale de la religion juive se sont résumées pour produire un des plus grands poèmes humains, la domination des Arabes. Certes, Mahomet a emprunté aux Juifs l'idée du gouvernement absolu et aux religions pastorales ou sabéiques le mouvement progressif qui a créé le brillant empire des califes. Sa destinée était écrite dans sa naissance même. Il eut pour père un païen et pour mère une juive. Ah, pour être grand musicien, mon cher comte, il faut être aussi très savant. Sans instruction, point de couleur locale, point d'idée dans la musique. Le compositeur qui chante pour chanter est un artisan et non un artiste. Ce magnifique opéra continue la grande œuvre que j'avais entreprise. Mon premier opéra s'appelait Les Martyrs, et j'en dois faire un troisième de la Jérusalem délivrée. Vous saisissez la beauté de cette triple composition et ses ressources si diverses. Les martyrs, Mahomet, la Jérusalem. Le dieu de l'Occident, celui de l'Orient et la lutte de leur religion autour d'un tombeau. Mais ne parlons pas de mes grandeurs à jamais perdues. Voici le sommaire de mon opéra. Le premier acte, dit-il après une pause, offre Mahomet, facteur chez Khadij, riche veuve chez laquelle l'a placé son oncle. Il est amoureux et ambitieux. Chassé de la Mecque, il s'enfuit à Médine et date son ère de sa fuite, l'Égypte. Le second acte montre Mahomet prophète et fondant une religion guerrière. Le troisième présente Mahomet dégoûté de tout, ayant épuisé la vie et dérobant le secret de sa mort pour devenir un dieu, dernier effort de l'orgueil humain. Vous allez juger de ma manière d'exprimer par des sons un grand fait que la poésie ne saurait rendre qu'imparfaitement par des mots. Gambara se mit à son piano d'un air recueilli, et sa femme lui apporta les volumineux papiers de sa partition, qu'il n'ouvrit point. Tout l'opéra, dit-il, repose sur une basse comme sur un riche terrain. Mahomet devait avoir une majestueuse voix de basse, et sa première femme avait nécessairement une voix de contralto. Khadij était vieille, et elle avait 20 ans. Attention, voici l'ouverture. Elle commence, ut mineur, par un andante trois temps. Entendez-vous la mélodie de l'ambitieux que ne satisfait pas l'amour? À travers ses plaintes, par une transition au ton relatif, mi bémol, allegro quatre temps, perce les cris de l'amoureux épileptique, ses fureurs et quelques motifs guerriers, car le sabre tout-puissant des califes commence à luire à ses yeux. Les beautés de la femme unique lui donnent le sentiment de cette pluralité d'amour qui nous frappe tant dans Don Juan. En entendant ces motifs, n'entrevoyez-vous pas le paradis de Mahomet? Mais voici la bémol majeur, 6-8, un cantabile capable d'épanouir l'âme la plus rebelle à la musique. Khadij a compris Mahomet. Khadij annonce au peuple les entrevues du prophète avec l'ange Gabriel. Maestoso sostenuto en fa mineur. Les magistrats, les prêtres, le pouvoir et la religion qui se sentent attaqués par le novateur comme Socrate et Jésus-Christ attaquaient les pouvoirs et les religions expirantes ou usées, poursuivent Mahomet et le chasse de la Mecque. Stelette en ut majeur. Arrive ma belle dominante, sol quatre temps. L'Arabie écoute son prophète, les cavaliers arrivent, Sol majeur, mi bémol, si bémol, sol mineur, toujours quatre temps. L'avalanche d'hommes grossit, le faux prophète a commencé sur une peuplade ce qu'il va faire sur le monde. Sol, sol. Il promet une domination universelle aux Arabes, on le croit parce qu'il est inspiré. Le crescendo commence par cette même dominante. Et voici quelques fanfares en ut majeur. Des cuivres plaqués sur l'harmonie qui se détachent et se font jour pour exprimer les premiers triomphes. Médine est conquise au prophète et l'on marche sur la Mecque. Explosion en ut majeur. Les puissances de l'orchestre se développent comme un incendie. Tout instrument parle, voici des torrents d'harmonie. Et tout à coup, le tutti est interrompu par un gracieux motif, une tierce mineure. Écoutez le dernier cantilène de l'amour dévoué. La femme qui a soutenu le grand homme meurt en lui cachant son désespoir. Elle meurt dans le triomphe de celui chez qui l'amour est devenu trop immense pour s'arrêter à une femme, et elle l'adore assez pour se sacrifier à la grandeur qui la tue. Quel amour de feu! Et voici le désert qui envahit le monde. Lutte majeure reprend. Les forces de l'orchestre reviennent et se résument dans une terrible quinte partie de la basse fondamentale qui expire. Mahomet s'ennuie, il a tout épuisé. Le voilà qui veut mourir Dieu. L'Arabie l'adore et prie, et nous retombons dans mon premier thème de mélancolie, par lutte mineure, au lever du rideau. Ne trouvez-vous pas, dit Gambara, en cessant de jouer et se retournant vers le comte, dans cette musique vive, heurtée, bizarre, mélancolique et toujours grande, l'expression de la vie d'un épileptique enragé de plaisir, ne sachant ni lire ni écrire, faisant de chacun de ses défauts un degré pour le marchepied de ses grandeurs, tournant ses fautes et ses malheurs en triomphe, n'avez-vous pas eu l'idée de sa séduction, exercée sur un peuple avide et amoureux, dans cette ouverture, échantillon de l'opéra, d'abord calme et sévère, le visage du maestro sur lequel Andrea avait cherché à deviner les idées qu'il exprimait d'une voix inspirée, et qu'un amalgame indigeste de notes ne permettait pas d'entrevoir, s'était animé par degrés et avait fini par prendre une expression passionnée qui réagit sur Marianna et sur le cuisinier. Marianna, trop vivement affectée par les passages où elle reconnaissait sa propre situation, n'avait pu cacher l'expression de son regard à Andrea. Gambara s'essuya le front, lança son regard avec tant de force vers le plafond qu'il sembla le percer et s'élever jusqu'aux cieux. « Vous avez vu le péristyle, dit-il, là, nous entrons maintenant dans le palais. L'opéra commence. Premier acte. Mahomet, seul sur le devant de la scène, commence par un air, fa naturel, quatre temps, interrompu par un chœur de chameliers qui sont auprès d'un puits dans le fond du théâtre. Ils font une opposition dans leur rythme 12-8. Quelle majestueuse douleur! Elle attendrira les femmes les plus évaporées en pénétrant leurs entrailles si elles n'ont pas de cœur. N'est-ce pas la mélodie du génie contraint? Au grand étonnement d'Andrea, car Marianna y était habituée, Gambara contractait si violemment son gosier qui n'en sortait que des sons étouffés assez semblables à ceux que lance un chien de garde enroué. La légère écume qui vint blanchir les lèvres du compositeur fit frémir Andrea. Sa femme arrive, la mineure. Quel duo magnifique! Dans ce morceau, j'exprime comment Mahomet a la volonté, comment sa femme a l'intelligence. Khadij y annonce qu'elle va se dévouer à une œuvre qui lui ravira l'amour de son jeune mari. Mahomet veut conquérir le monde, sa femme l'a deviné. Elle l'a secondé en persuadant au peuple de la Mecque que les attaques d'épilepsie de son mari sont les effets de son commerce avec les anges. Cœur des premiers disciples de Mahomet qui viennent lui promettre leur secours. Ut dies mineur sotto voce. Mahomet sort pour aller trouver l'ange Gabriel, récitatif en fa majeur. Sa femme encourage le cœur, air coupé par les accompagnements du cœur. Des bouffées de voix soutiennent le chant large et majestueux de Khadij, la majeure. Abdallah, le père d'Aïcha, seule fille que Mahomet ait trouvée vierge, et de qui par cette raison le prophète changea le nom en celui d'Abou Bekr, père de la pucelle, s'avance avec Aïcha et se détache du cœur par des phrases qui dominent le reste des voix et qui soutiennent l'air de Khadij en s'y joignant en contrepoint. Omar, père d'Afsa, autre fille que doit posséder Mahomet, imite l'exemple d'Abou Bekr et vient avec sa fille former un quintetto. La Vierge Aïcha est un primo soprano. Afsa fait le second soprano et Abou Bekr est une basse taille. Omar est un baryton. Mahomet reparaît inspiré. Il chante son premier air de bravoure qui commence le finale, mi majeur. Il promet l'empire du monde à ses premiers croyants. Le prophète aperçoit les deux filles et par une transition douce de si majeur en sol majeur, il leur adresse des phrases amoureuses. Ali, cousin de Mahomet, et Khaled, son plus grand général, deux ténors, arrivent et annoncent la persécution. Les magistrats, les soldats, les seigneurs ont proscrit le prophète. Récitatif. Mahomet s'écrit dans une invocation en ut que l'ange Gabriel est avec lui et montre un pigeon qui s'envole. Le cœur des croyants répond par des accents de dévouement sur une modulation en si majeur. Les soldats, les magistrats, les grands arrivent. Tempo di marcia, quatre temps si majeur. Lutte entre les deux cœurs, strette en mi majeur. Mahomet, par une succession de septièmes diminuées descendantes, cède à l'orage et s'enfuit. La couleur sombre et farouche de ce final est nuancée par les motifs des trois femmes qui présagent à Mahomet son triomphe et dont les phrases se trouveront développées au troisième acte dans la scène où Mahomet savoure les délices de sa grandeur. En ce moment, des pleurs vinrent aux yeux de Gambara, qui, après un moment d'émotion, s'écria. Deuxième acte. Voici la religion instituée. Les Arabes gardent l'attente de leur prophète qui consulte Dieu. Cœur en la mineur. Mahomet paraît. Prière en fa. Quelle brillante et majestueuse harmonie plaqué sous ce chant où je peux peut-être reculer les bornes de la mélodie. Ne fallait-il pas exprimer les merveilles de ce grand mouvement d'hommes qui a créé une musique, une architecture, une poésie, un costume et des mœurs? En l'entendant, vous vous promenez sous les arcades du Généralif, sous les voûtes sculptées de Halamora. Les fioritures de l'air peignent la délicieuse architecture mauresque et les poésies de cette religieuse galante et guerrière qui devait s'opposer à la guerrière et galante chevalerie des chrétiens. Quelques cuivres se réveillent à l'orchestre et annoncent les premiers triomphes. par une cadence rompue. Les Arabes adorent le prophète, mi bémol majeur. Arrivé de Khaled, d'Amrou et d'Ali par un tempo di marcia. Les armées des croyants ont pris des villes et soumis les trois Arabies. Quel pompeux récitatif! Mahomet récompense ses généraux en leur donnant ses filles. Ici, dit-il d'un air piteux, il y a de ces ignobles ballets qui coupent le fil des plus belles tragédies musicales. Mais Mahomet, si mineur, relève l'opéra par sa grande prophétie qui commence chez ce pauvre monsieur de Voltaire par ce vers « Le temps de l'Arabie est à la fin venue ». Elle est interrompue par le chœur des Arabes triomphants, 12-8 accélérés. Les clairons, les cuivres reparaissent avec les tribus qui arrivent en foule. Fête générale où toutes les voix concourent l'une après l'autre et où Mahomet proclame sa polygamie. Au milieu de cette gloire, la femme qui a tant servi Mahomet se détache par un air magnifique en si majeur. « Et moi, dit-elle, ne serais donc plus aimée ? Il faut nous séparer, tu es une femme, je suis un prophète. Je puis avoir des esclaves, mais plus d'égales. Écoutez ce duo, sol dièse mineur. Quel déchirement ! La femme comprend la grandeur qu'elle a élevée de ses mains. Elle aime assez Mahomet pour se sacrifier à sa gloire. Elle l'adore comme un dieu sans le juger et sans un murmure. Pauvre femme, la première dupe et la première victime. Quel thème pour le final, si majeur, que c'est de douleur brodée en couleurs si brunes sur le fond des acclamations du cœur et mariée aux accents de Mahomet abandonnant sa femme comme un instrument inutile. Mais faisant voir qu'il ne l'oubliera jamais. Quelle triomphante girandole, quelle fusée de chants joyeux et perlés élancent les deux jeunes voix, primo et secondo soprano, d'Aïcha et d'Afsa, soutenues par Ali et sa femme, par Omar et Abou Bekr. Pleurez, réjouissez-vous, triomphes et larmes, voilà la vie. Mariana ne put retenir ses pleurs. Andrea fut tellement ému que ses yeux s'humectèrent légèrement. Le cuisinier napolitain qu'ébranla la communication magnétique des idées exprimées par les spasmes de la voix de Gambara s'unit à cette émotion. Le musicien se retourna, vit ce groupe et sourit. « Vous me comprenez enfin ! » s'écria-t-il. Jamais triomphateur mené pompeusement au Capitole, dans les rayons pourpres de la gloire, aux acclamations de tout un peuple, n'eut pareille expression en sentant poser la couronne sur sa tête. Le visage du musicien étincelait comme celui d'un saint martyr. Personne ne dissipa cette erreur. Un horrible sourire effleura les lèvres de Marianna. Le comte fut épouvanté par la naïveté de cette folie. Troisième acte, dit l'heureux compositeur en se rasseyant au piano. Andantino solo. Mahomet, malheureux dans son sérail, entouré de femmes. Quatuor de houri en la majeure. Quelle pompe, quel chant de rossignols heureux! Modulation, fa dièse mineur. Le thème se représente sur la dominante mi pour reprendre la majeure. Les voluptés se groupent et se dessinent afin de produire leur opposition au sombre final du premier acte. Après les danses, Mahomet se lève et chante un grand air de bravoure en fa mineur, pour regretter l'amour unique et dévoué de sa première femme en s'avouant vaincu par la polygamie. Jamais musicien n'a eu pareil thème. L'orchestre et le chœur des femmes expriment les joies des houris, tandis que Mahomet revient à la mélancolie qui a ouvert l'opéra. Mais où est Beethoven ? S'écria Gambara, pour que je sois bien compris dans ce retour prodigieux de tout l'opéra sur lui-même. Comme tout s'est appuyé sur la basse, Beethoven n'a pas construit autrement sa symphonie en ut, mais son mouvement héroïque est purement instrumental au lieu qu'ici. Mon mouvement héroïque est appuyé sur un sextuor des plus belles voix humaines et par un cœur des croyants qui veille à la porte de la maison sainte. J'ai toutes les richesses de la mélodie et de l'harmonie, un orchestre et des voix. Entendez l'expression de toutes les existences humaines, riches ou pauvres. La lutte, le triomphe et l'ennui. Ali arrive, l'Alcoran triomphe sur tous les points, duo en ré mineur. Mahomet se confie à ses deux beaux-pères, il est las de tout, il veut abdiquer le pouvoir et mourir inconnu pour consolider son œuvre. Magnifique sextuor, si bémol majeur. Il fait ses adieux, solo en fa naturel, ses deux beaux-pères institués, ses vicaires, calife appelle le peuple, grande marche triomphale, prière générale des Arabes agenouillés devant la maison sainte, la Casbah, d'où s'envole le pigeon, même tonalité. La prière, faite par 60 voix, est commandée par les femmes, en si bémol, couronne cette œuvre gigantesque où la vie des nations et de l'homme est exprimée. Vous avez eu toutes les émotions humaines et divines. Andrea contemplait Gambara dans un étonnement stupide. Si d'abord il avait été saisi par l'horrible ironie que présentait cet homme en exprimant les sentiments de la femme de Mahomet sans les reconnaître chez Mariana, la folie du mari fut éclipsée par celle du compositeur. Il n'y avait pas l'apparence d'une idée poétique ou musicale dans l'étourdissante cacophonie qui frappait les oreilles. Les principes de l'harmonie, les premières règles de la composition étaient totalement étrangères à cette informe création. Au lieu de la musique savamment orchestrée et enchaînée que désignait Gambara, ses doigts produisaient une succession de quintes de septième et d'octaves, de tierces majeures et de marches de catharsis à la basse réunion de sons discordants jetés au hasard, qui semblaient combinés pour déchirer les oreilles les moins délicates. Il est difficile d'exprimer cette bizarre exécution, car il faudrait des mots nouveaux pour cette musique impossible. Péniblement affecté de la folie de ce brave homme, Andrea rougissait et regardait à la dérobée Marianna, qui, pâle et les yeux baissés, ne pouvait retenir ses larmes. Au milieu de son beau haha de notes, Gambara avait lancé de temps en temps des exclamations qui décelaient le ravissement de son âme. Il s'était pâmé d'aise, il avait souri à son piano, l'avait regardé avec colère, lui avait tiré la langue, expression à l'usage des inspirés. Enfin, il paraissait enivré de la poésie qui lui remplissait la tête et qu'il s'était vainement efforcé de traduire. Les étranges discordances qui hurlaient sous ses doigts avaient évidemment résonné dans son oreille comme de célestes harmonies. Certes, au regard inspiré de ses yeux bleus ouverts sur un autre monde, à la rose lueur qui colorait ses joues, et surtout à cette sérénité divine que l'extase répandait sur ses traits si nobles et si fiers, un sourd aurait cru assister à une improvisation due à quelque grand artiste. Cette illusion eût été d'autant plus naturelle que l'exécution de cette musique insensée exigeait une habileté merveilleuse pour se rompre à un pareil doigté. Gambara avait dû travailler pendant plusieurs années. Ses mains n'étaient pas d'ailleurs seules occupées,